Bonjour La Terre, votre magazine sur l'environnement avec notre invité Éric Darrouzet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être de nouveau parmi nous au studio de RCF. Éric Darrouzet, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Tours, à la Faculté des Sciences. Et vous êtes également donc chercheur à l'IRBI, l'Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte. Alors déjà peut-être un mot avant de parler du frelon asiatique qui a fait son apparition en Indre-et-Loire. Peut-être déjà un mot sur l'Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte, l'IRBI.
Alors l'IRBI, c'est on va dire plusieurs laboratoires qui sont spécialisés sur les insectes. C'est un bâtiment qui renferme à peu près 50-70 personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Et on est le plus gros institut de recherche sur les insectes en France. Et la différentes équipes qui travaillent soit en génétique, soit en écologie chimique, etc.
Donc études sur les insectes et leur environnement à tous les niveaux d'organisation.
Voilà, oui.
Donc ça va des termes du génome à la structure de communauté en passant par la physiologie intégrative.
Des termes bien compliqués pour étudier des petits animaux, oui.
Et les domaines d'application, ça va de la lutte biologique à l'agriculture durable.
On travaille vraiment, nous, en recherche fondamentale. Donc on essaye de mieux connaître un peu ces modèles animaux. On n'a pas vraiment, si vous voulez, de sujet d'étude en appliqué, c'est-à-dire en lutte biologique, par exemple. Effectivement, nos résultats peuvent servir à des applications ultérieures, mais on n'est pas encore, nous, moi en tout cas, je ne vais peut-être pas parler de mes collègues, mais on n'est pas vraiment impliqué dans des sujets vraiment appliqués à l'heure actuelle. Et donc, si ce n'est une équipe, par exemple, qui travaille en bionique, par exemple. Oui.
Et vous êtes donc dans le parc Grandmont, hein?
Oui, tout à fait, au sud de Tours.
Au sud de Tours, alors beaucoup d'activités au sein de l'IRBI au niveau de la population et de l'écosystème pour tout ce qui est invasion biologique par des insectes.
Voilà, moi je travaille dans une équipe qui s'appelle ISEC, c'est insectes sociaux et écologie chimique. Donc là, nous, on est plus spécialisé sur des insectes qui vivent en société, et en l'occurrence des espèces qui sont invasives, comme par exemple les termites.
Oui.
Ou le frelon asiatique.
D'accord. Et vous-même, Éric Darrouzet, quel est votre rôle précis au sein du IRBI?
Écoutez, moi je travaille au niveau recherche sur les insectes dont je viens de vous parler. Donc au niveau des termites, moi mon rôle c'est de mieux comprendre comment les individus changent de caste. Parce que chaque individu dans une société de termites a un rôle particulier, une fonction particulière. Soit ce sont des reproducteurs, soit des soldats, soit des travailleurs, des ouvriers, on appelle ça. Donc j'essaie de mieux comprendre comment les individus passent d'une caste à une autre. Et au niveau du frelon, qui est un autre insecte social, j'essaie de comprendre un peu la signature chimique de ces animaux pour mettre au point un outil sur le terrain pour mieux connaître, les surfaces de prédation, par exemple, du frelon.
Et votre parcours, Éric Darrouzet, c'est venu comment, cette passion pour les insectes?
Waouh, bonne question. Comment ça m'est venu? Au début, j'ai fait des études de médecine. Après un bac D, j'ai voulu faire de la biologie. La médecine me semblait être quelque chose d'intéressant. Effectivement, en même temps, je me suis un peu intéressé aux insectes. J'ai échoué à ces études de médecine, c'est-à-dire le concours de première année, ils n'ont pas voulu que je continue. Donc du coup, j'ai été obligé de me recycler en biologie, parce que c'était mon domaine qui m'intéressait. Et après, j'ai fait un parcours classique universitaire, le système LMD jusqu'au doctorat. Et j'ai trouvé. Alors j'ai fait un parcours en biologie, on va dire normal comme tout le monde. En thèse, j'ai eu la chance de faire un sujet sur les insectes.
Oui.
Donc finalement, ça m'intéressait bien. Alors j'ai fait un an après où je travaillais sur des plantes pour me former sur d'autres techniques. Et j'ai trouvé un poste ici à Tours également sur les insectes, à l'IRBI.
Et bien, comme vous l'avez dit en début d'entretien, Éric Darrouzet, l'IRBI à Tours, l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, c'est vraiment le centre en France. Hein, c'est le centre le plus important.
C'est le groupe de personnes qui travaillent sur les insectes qui est le plus imposant en France. Ouais. Alors, il y a d'autres centres en France. Hein. Il y en a à Paris, il y en a à Montpellier, à Sophie Antipolis, à Lyon. Enfin, il y a pas mal d'endroits. Mais à Tours, on a vraiment une concentration de personnes assez intéressante.
D'accord. Vous êtes en lien justement avec ces différents autres instituts de recherche,
Même au niveau international.
Oui.
Au niveau de nos activités de recherche, on est obligé d'avoir des collaborations et des collègues, soit des collègues nationaux ou internationaux.
Oui, vous travaillez également avec l'étranger, alors avec les pays anglo-saxons ou l'Europe.
Moi, j'ai, on va dire, une collaboration avec des Américains sur les termites. On travaille sur un sujet un peu commun. Après, au niveau d'autres sujets de recherche, type le frelon, c'est plutôt des collaborations nationales, là, par contre. Sachant que cet insecte-là, il est qu'en Chine ou en France.
Justement, le frelon asiatique, on en parle de plus en plus. Il se trouvait plus dans le sud de la France et il remonte.
Dans le sud-ouest, oui.
Dans le sud-ouest, et là, il remonte. Hein.
Ben, la fois dernière, on était...
Vous étiez venu au mois de mai,
voilà,
je crois. Oui.
Ce que vous me dites avant l'heure.
Avant l'été. Et donc, l'actualité, c'est que le frelon asiatique
est
apparu en Indre-et-Loire.
Voilà, oui. Moi, quand j'étais passé sur votre antenne il y a quelques mois, l'idée que j'avais, c'est que le frelon est arrivé en 2004 dans le sud-ouest, aux alentours d'Agen. Et ensuite, il y a eu une expansion relativement importante vers le nord et vers l'est. Donc, quand j'étais passé, à la carte de répartition, c'était tout le grand sud-ouest. Et cette année, en fin août, on a eu deux cas d'observation autour de Tours, à Jouy-les-Tours et la Ville aux Dames. Donc, en fait, l'expansion, ça a été plus rapide que je pensais, oui.
Deux cas bien différents, non, niveau observation?
Alors, à la Ville aux Dames, c'est un nid, une colonie complète qui a été éliminée.
Ah oui.
Et à Jouy-les-Tours, c'est une observation sur un rucher, où l'apiculteur a observé des ouvrières du frelon qui venaient attaquer ces abeilles pour les chasser.
Un mot quand même sur la définition de ce frelon asiatique. C'est une espèce invasive. Comment on peut le définir?
Eh bien, si vous voulez, c'est une espèce qu'on trouve normalement en Chine. En fait, en Asie du Sud-Est, et la sous-espèce qu'on a en France, on la trouve à peu près dans la province du Yunnan, en Chine, normalement. Et l'hypothèse que nous avons, c'est que l'animal aurait été introduit accidentellement en France vers 2004, probablement avec le commerce international. Cette espèce, on va dire, c'était une ou voire plusieurs reines qui sont venues accidentellement, on ne sait pas trop. Et ces animaux ont fondé des colonies autour d'Agen. Et après, année par année, chaque colonie a produit de nouvelles reines qui elles-mêmes ont essaimé dans l'environnement. Et les survivantes au cours de l'hiver ont fondé ensuite chacune une colonie. Et naturellement, l'espèce a commencé à envahir un peu le pays sous cette forme-là. Donc on parle d'espèce invasive.
Espèce invasive, donc ça veut dire qu'en ce moment, là, c'est une bonne partie de la France qui est envahie, entre guillemets, par ce frelon asiatique.
Enfin, envahir, le mot était un peu fort. Disons que l'espèce, elle est présente...
C'est pas la guerre des mondes, quand même.
Non, c'est pas des petites bestioles toutes vertes qui viendraient de Mars. L'animal, il est en fait dans le grand sud-ouest. Vous prenez la France, vous coupez en quatre, toute la partie sud-ouest donc de cette carte est occupée par le frelon.
Oui.
On a deux régions, trois régions au nord où on le retrouve. En l'occurrence, l'Île-de-France.
Oui.
Il a été décrit, vos collègues, les médias en ont parlé il n'y a pas très longtemps finalement. C'était courant septembre où ils ont observé quelques colonies en Île-de-France. Donc ça, c'est, je dirais, c'est des. Si on regarde la carte de répartition, donc le Grand Sud-Ouest et trois spots, si vous voulez, dans le Nord. Donc au niveau Sud-Ouest, c'est une expansion, j'allais dire entre guillemets, naturelle. C'est-à-dire, c'est des colonies qui produisent de nouvelles colonies. Et les trois spots qu'on a au Nord, c'est plutôt lié au commerce, tout simplement. On peut très bien imaginer quelqu'un qui a transporté du bois en provenance du, je sais pas, moi, du côté de Montauban, de Toulouse, n'importe où. Il aurait amené chez lui, et avec ses pièces de bois, peut-être qu'il y avait des rennes en hibernation.
Alors, ce qui est gênant, c'est que ce frelon asiatique tue les abeilles?
Voilà, c'est un... Alors, comme tout frelon, comme toute guêpe, c'est un prédateur. Alors, effectivement, il peut consommer des fruits ou de la sève d'arbres, mais également, il chasse des insectes. Et ce frelon, on s'est rendu compte que c'était un prédateur de l'abeille. C'est-à-dire que au niveau des ruches, le mécanisme d'attaque est assez extraordinaire en soi. C'est-à-dire que les ouvrières du frelon arrivent devant la ruche, elles se mettent en vol stationnaire. Et dès qu'une butineuse, une abeille, revient à la ruche chargée de pollen ou de nectar, le frelon qui était en vol stationnaire se jette sur l'ouvrière, l'attrape. Ensuite, il la décapite, il coupe l'abdomen et ramène le thorax de l'abeille à son nid pour nourrir les larves.
D'accord.
Donc naturellement, là, du coup, on a un nouveau prédateur sur l'abeille. Et les taux de prédation, c'est-à-dire la quantité d'abeilles chassées par le frelon, peut être peu importante dans certaines ruches, au niveau de certains ruchers, mais peut être très importante, comme on a pu l'observer autour de Bordeaux.
Donc c'est ce que vous avez dit lors de la conférence à la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire, récemment, avec les syndicats apicoles.
Voilà. Alors, j'ai eu la chance d'être invité à faire une conférence sur le frelon devant les apiculteurs de la région. Et donc pendant à peu près une heure, je leur ai présenté ce que nous, en tant que scientifiques, on savait sur le frelon, c'est-à-dire la biologie de l'animal, d'où il venait, son aire de répartition, comment l'animal chassait, qu'est-ce que nous, on pouvait faire pour essayer de limiter l'expansion. Donc les gens ont semblé intéressés, j'ai eu pas mal de questions, c'était assez sympa. Ouais.
Alors aujourd'hui, le but, c'est d'informer le public et donc ceux qui observent un frelon asiatique. Donc on rappelle qu'il est assez gros, hein, au niveau de taille.
Non, non. Si vous prenez le frelon commun, frelon européen, c'est la grosse guêpe jaune que tout le monde connaît. Le frelon asiatique, il est deux fois plus petit, à peu près.
D'accord.
Oui. Il a une taille comprise entre une guêpe commune et le frelon commun.
D'accord.
Le frelon commun, c'est comme une guêpe classique, j'allais dire. Il est noir, rayé de jaune. Donc c'est vraiment l'image que tout le monde connaît, hein, finalement. Le frelon asiatique, lui, il est différent, il est tout noir. Et simplement, en signe distinctif, ce qui permet d'éviter de faire des confusions, c'est que sur l'abdomen, au niveau du dos de l'abdomen, vous avez une bande orangée. Et la face de l'animal est orangée aussi. D'accord. Donc c'est comme, si vous voulez, une grosse guêpe noire avec une bande orangée sur le dos.
D'accord. Si on observe un frelon asiatique, il faut appeler l'IRBI, par exemple, ou comment... Qu'est-ce qu'il faut faire
Oui et non, j'allais dire. Si vous avez une colonie de frelons communs, bon, là, ça ne sert à rien d'appeler les pompiers, ils n'interviennent plus. Donc, c'est des sociétés spécialisées d'élimination de guêpes qui vont venir. Naturellement, ça, c'est payant. Si c'est pour le frelon asiatique, pareillement, c'est eux qu'il faut prévenir. Nous, au niveau de l'IRBI, enfin, moi, on n'est pas du tout équipé pour ça. Notre rôle, ce n'est pas d'éliminer les colonies. Par contre, moi, je suis intéressé d'avoir l'information, savoir où des colonies auraient été repérées. Et également, si c'est possible, récupérer des échantillons d'insectes, voire de nids.
En un mot maintenant pour eux, quels sont les projets pour l'IRBI et dans votre secteur d'activité, Eric Darouzet, pour les mois à venir?
Alors déjà, bon, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai deux sujets de recherche. Sur ce sujet frelon, c'est vraiment affiner l'outil que je suis en train de mettre au point, essayer de mieux connaître, on va dire, la signature chimique de l'animal. L'idée, c'est de pouvoir différencier un individu d'une colonie par rapport à une autre. Et c'est-à-dire, on va pouvoir, via cet outil, déterminer quelle est l'aire de prédation du frelon, parce qu'on ne connaît pas grand-chose sur l'animal. Hein. On ne sait pas si le frelon va chasser à 500 mètres ou 2000 mètres ou que sais-je, au-delà de sa colonie. Donc, avoir ce genre d'informations. Et également, au niveau des ruches qui sont fortement attaquées par des frelons, c'est essayer de capturer des individus pour voir si ces individus viennent d'une seule et même colonie ou de plusieurs colonies. Donc là, je dirais, moi, au niveau de mes activités sur ce frelon, je vais rester dans ce domaine-là. Sachant que j'ai d'autres collègues qui travaillent dans d'autres domaines.
Eric Darouzet, enseignant-chercheur à l'IRBI, l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte. Merci d'être venu au micro de RCF pour nous avoir parlé du frelon asiatique. Merci, à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.